Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Je serai, et je vous le promets, le président de tous les Américains. Tous les Américains.
All Americans.
Et ça y est donc, la page Trump est bel et bien tournée. Joe Biden est le 46e président des États-Unis.
Un événement que nous vivons ensemble depuis 18h sur Europe 1 avec plusieurs temps forts.
La prestation de serment sur la Bible et le discours du nouveau président qui se présente comme l'anti-Donald Trump avec la volonté de rassembler et d'apaiser un pays meurtri.
Il jure notamment de vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur.
Un peu plus tôt, Donald Trump avait quitté la Maison-Blanche. Dans son tout dernier discours, il a promis qu'il reviendrait.
On sera à Washington dès le début de ce journal et on verra que sur place, les choses ne vont pas traîner. Didier François nous dira que l'équipe de Joe Biden est déjà au travail. Le nouveau président s'est entouré de pros.
Au sommaire également, chez nous en France, le coup d'envoi des soldes d'hiver. Les commerçants espèrent sauver leur année. Et puis Édouard Balladur qui se défend au deuxième jour de son procès. L'ancien Premier ministre dénonce des mensonges et des rumeurs.
La météo, attention, soyez prudents. Plusieurs départements sont placés en vigilance orange. Anissa.
Oui, 5 exactement, Julien. Placé en vigilance orange, vent fort. Je vous donne le détail à la fin du journal. Et puis demain, la pluie vient se mêler au vent. Les températures, elles, restent toujours aussi douces.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous le vivons donc ensemble sur Europe 1 depuis 18h maintenant, cette journée historique aux États-Unis. Depuis un peu plus d'une heure, Joe Biden est officiellement le 46e président américain.
Oui, et dans son discours d'investiture, il a donc mis en avant sa volonté de rassembler les Américains.
Je suis honoré de l'espoir que vous avez placé en moi. Mais à tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, laissez-moi vous dire ceci. Attendez un peu de voir ce que j'ai à cœur de faire. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, alors soit. C'est la démocratie. C'est ça, l'Amérique. Le droit d'être pacifiquement en désaccord. Dans le respect de notre République, qui est peut-être la plus grande force de cette nation. Mais écoutez-moi bien. Ces désaccords ne doivent pas mener à la désunion. Je serai, et je vous le promets, le président de tous les Américains. Tous les Américains.
Comme le veut la tradition, Joe Biden a donc prêté serment sur la Bible avant de prononcer ce fameux discours face à une poignée d'invités triés sur le volet et à une nuée de drapeaux, puisque vous le savez, Covid oblige, les Américains ne pouvaient pas assister directement à cette cérémonie.
Oui, cérémonie que vous avez suivie, Xavier Yvon, vous êtes en direct de Washington. Cérémonie empreinte de solennité et très différente d'ailleurs de celle à laquelle vous aviez pu assister il y a 4 ans.
Ah bah oui, puisqu'il y a 4 ans, j'étais sur une pelouse au milieu de la foule de partisans de Donald Trump face au Capitole. Et là, évidemment, rien de tout ça. On a eu une investiture totalement inédite. En fait, cette cérémonie était à l'image de l'état dans lequel Donald Trump laisse l'Amérique, ravagé par une pandémie et sous haute tension sécuritaire. Il suffisait de voir le décor de cette investiture, les marches du Capitole clairsemées, très peu d'invités, à peine 2000, assis sur des chaises, à bonne distance les uns des autres, tous portant un masque, et le mall totalement vide. Donc cette immense esplanade de la capitale qui, en temps normal, aurait été noir de monde. Tout à l'heure, le cortège de Joe Biden, qui est encore au Capitole, qui n'est pas parti, ce cortège va remonter les rues de Washington, non pas bordé d'une foule en liesse, mais d'hommes en uniforme et d'immenses grilles de protection pour éviter toute nouvelle attaque des partisans de Donald Trump. Elle date d'il y a 2 semaines, celle sur le Capitole. Un contexte et une ambiance aussi très différente. C'était tendu il y a 4 ans avec un discours violent de Donald Trump et les visages figés des Obama et des Clinton. Là, on a eu un discours sobre, rassembleur de Joe Biden. Et puis, on a senti dans les allocutions, dans les réactions, comme un immense soulagement. Et même dans les images de la fin de la cérémonie où, vous savez, on va se saluer, on a eu des accolades, des rires, des sourires derrière les masques, une franche rigolade d'ailleurs entre Barack Obama et Lady Gaga. Voilà, une espèce d'ambiance de joie, de soulagement. Et puis on retiendra évidemment une image historique de cette cérémonie, c'est celle de Kamala Harris, son grand sourire, son manteau violet, sa main droite levée pour devenir la première femme, la première afro-américaine et la première américaine d'origine asiatique vice-présidente des États-Unis.
Merci beaucoup Xavier Yvon, en direct de Washington.
Une cérémonie sans public, vous l'avez compris, mais à laquelle ont quand même pu assister de loin quelques Américains très motivés venus spécialement pour l'occasion.
Et vous êtes à leur côté aux abords du Capitole, Alexis Guilleux.
Oui, bonsoir. Au plus près qu'il est possible d'être du Capitole, c'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres du siège du Congrès. Le périmètre là est bouclé par la garde nationale. On les voit, les soldats armes à la main, alignés derrière ces grandes barrières noires de 2-3 mètres de hauteur surmontées de barbelés. Pas de circulation dans le secteur. Il faut passer des checkpoints pour s'approcher. Malgré cela, eh bien, donc, il y a quelques spectateurs venus braver les consignes. Pendant la cérémonie, on a regardé cette cérémonie penchée sur les téléphones portables pour suivre la prestation. de serment et le discours de Joe Biden, les personnes rencontrées voulaient assister absolument à cette journée qu'il qualifie d'historique. Écoutez par exemple Doug, il a fait la route depuis le Michigan dans la région des Grands Lacs et malgré tout ce dispositif sécuritaire, eh bien, il voulait être là à Washington.
Je voulais vraiment être témoin de ce moment, avec tous ces militaires et cette présence policière qui protège le gouvernement de son propre peuple, à cause de la manière dont les partisans de Donald Trump ont attaqué le Capitole. Je ne crois pas qu'il y ait un sentiment d'unité. Je crois qu'il y a un sentiment d'espoir. On est dans un entre-deux. L'ère Trump est terminée et l'ère Biden commence tout juste. L'unité, c'est quelque chose qu'il faudra développer avec le temps. On sait que le nouveau président ne va pas résoudre tous les problèmes, mais le président ne devrait pas être le problème.
Voilà, et comme Doug, de nombreux spectateurs ont fait le voyage jusqu'à Washington. Un homme est venu, par exemple, avec ses trois fils depuis l'Arizona. C'est de l'autre côté du pays. Alors lui ne se dit pas politisé, mais voilà, il voulait voir l'histoire en marche. Il estime que c'est important pour ses enfants d'être là à Washington. Et il aurait aimé être un peu plus proche du Capitole, comme tout le monde ici. Alors il y a le soulagement dans les esprits après quatre années de pouvoir de Donald Trump. L'espoir, l'histoire également, c'est les mots qui reviennent le plus. Avec également le nom toujours de Kamala Harris, première vice-présidente des États-Unis, première afro-américaine à ce poste.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1, aux abords donc du Capitole à Washington.
Donald Trump, qui donc n'a pas assisté à cette investiture, a laissé une lettre pour son prédécesseur, pour son successeur, avant de quitter la Maison-Blanche, comme le veut la tradition.
Oui, c'était un peu après 14 heures. Donald Trump et son épouse Melania ont embarqué à bord d'un hélicoptère, direction la base d'Andrews, où celui qui était encore président pour quelques heures a prononcé son tout dernier discours, avant de s'envoler vers la Floride, d'abord d'Air Force One, il vient d'arriver.
Alors, on était bien sûr attentifs à chaque mot, parce qu'avec Donald Trump, on sait qu'on peut s'attendre à tout.
Et oui, sauf que pour une fois, Sonia Dridi, vous êtes également à Washington, pour une fois, pas de coup d'éclat, ni d'énervement, juste une promesse.
Oui, Donald Trump, que l'on s'est humilié et frustré, est parti en catimini, mais il a promis qu'il serait bientôt de retour.
Ça a été quatre années incroyables. Ce que nous avons fait est extraordinaire. Ça a été le plus grand honneur, le plus grand privilège d'être votre président. Je me battrai toujours pour vous, donc c'est juste un au revoir. On vous aime, on reviendra d'une manière ou d'une autre. Bonne vie à vous et à bientôt.
Selon le Wall Street Journal, le président sortant aurait l'intention de créer un parti politique, le Parti Patriote. De nombreux élus républicains lui ont tourné le dos ces derniers jours, notamment après l'assaut du Capitole que certains l'accusent d'avoir provoqué. Mais sa base électorale est toujours très solide et Trump a pris goût aux meetings de campagne. Des anciens conseillers à la Maison-Blanche le suivent en Floride, à commencer par son gendre Jared Kushner. Et c'est depuis sa villa de Mar-a-Lago qu'il pourrait rapidement commencer les consultations. Et s'il n'en est pas empêché par son procès en destitution qui est en court, il pourrait être à nouveau candidat en 2024.
Sonia Dridi, à Washington pour Europe 1, en tout cas on l'a bien compris, cette passation de pouvoir ne ressemblait à aucune autre.
Hein. Oui, l'autre rupture spectaculaire par rapport à la dernière passation de pouvoir, c'est que Joe Biden a déjà choisi l'ensemble des responsables qui auront la haute main sur la sécurité, la diplomatie des États-Unis dans son administration, alors que Donald Trump avait mis plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois à les sélectionner.
Oui, Biden qui s'est entouré d'une équipe composée de pros, hein, tous très reconnus dans leur domaine de compétences. On en parle avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Et là encore, hein, grosse rupture avec Donald Trump qui lui avait plutôt promu des fidèles, hein, pour récompenser leur loyauté.
C'est ça. Alors d'ailleurs, on a un mot pour ça à Washington. Hein. C'est le retour aux affaires du blob. Voilà, alors le blob, c'est un peu l'énarchie américaine, une caste de hauts fonctionnaires, propres sur eux, effectivement très professionnels, qui font carrière avec des allers-retours permanents entre le public et le privé, passant au gré des alternances d'une administration ou d'un centre de recherche universitaire influent à une grande entreprise, en général plutôt liée au marché de l'État. Alors, tout seigneur, tout honneur, c'est exactement le parcours du nouveau secrétaire d'État, qui s'appelle Tony Blinken, 58 ans. Il a été le numéro 2 de la diplomatie américaine sous Obama, après avoir fait ses classes au Conseil national de sécurité. Et puis, il avait ensuite fondé un cabinet d'analyse UP sur les risques géopolitiques, dans lequel travaillait d'ailleurs également le général Lloyd Austin, ancien vice-chef d'état-major des armées, patron du CENTCOM, le plus gros commandant opérationnel américain, et qui devient le secrétaire d'État à la Défense. Même profil pour Avril Haines, ancienne directrice adjointe de la CIA, promue à la coordination nationale du renseignement, ou alors Richard Burns, diplomate d'expérience qui prend la CIA, Jack Sullivan, patron du Conseil national de sécurité. On est donc très loin, effectivement, des francs-tireurs aux trajectoires éphémères et aux idées parfois assez déconcertantes qui orbitaient dans l'entourage de Donald Trump.
Voilà, donc c'est un retour à un mode de fonctionnement plus classique, en somme.
C'est ça, on va gagner en prévisibilité ce que l'on va perdre en originalité. Voilà, choix totalement assumé par Joe Biden, qui le justifie par son besoin d'avoir une équipe composé d'individus, dit-il, expérimentés, habitués à la gestion des crises, prêts à fonctionner dès le premier jour. Et de ce point de vue, bah, effectivement, les risques sont faibles de voir basculer l'administration Biden dans les excès des années Trump, avec une diplomatie plutôt éruptive et parfois un poil trop expérimentale. Alors seulement, le nouveau président avait également ajouté un autre critère normalement à la sélection, puisqu'il disait chercher des personnalités novatrices et imaginative. Alors, pour le coup, là, c'est pas vraiment une évidence, hein, les choix qu'il a fait, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Avec un peu de chance, on aura peut-être finalement une administration américaine qui à la fois saura gérer et puis saura aussi aborder les nouveaux défis internationaux avec un œil neuf et peut-être une approche innovante.
Tout ce qu'on peut espérer, en tout cas. L'œil de Didier François, tous les soirs, dans ce journal de 19h sur Europe 1.
Et on continue évidemment de parler des États-Unis, de cette passation de pouvoir inédite, dans quelques secondes, dans le débat du Club des idées avec nos invités et nos envoyés spéciaux sur place.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du journal à 19h13, Isabelle Millet, on parle maintenant des commerçants très touchés par le contexte sanitaire qui espèrent donc sauver leur saison grâce aux soldes qui débutent aujourd'hui.
Oui, et qui interviennent alors que les magasins, vous le savez, partout en France doivent fermer leurs portes à 18h ou plus tard. Malgré cette contrainte, Bruno Tripon, qui est commerçant à Bordeaux, espère sauver les meubles.
Le Covid nous a empêchés effectivement de travailler, donc beaucoup de stocks dans les boutiques. Et ensuite, le confinement à 18h amplifie ce problème. C'est plus vrai dans le secteur de l'habillement, où aujourd'hui, il leur reste à peu près entre 50 et 80% de stocks à écouler. Et c'est une nécessité économique pour eux. Comme vous pouvez le voir, nous avons ouvert nous-mêmes plus tôt, à 9h, même un petit peu avant. Et dès 9h, nous avons déjà eu des clients. C'est vraiment important d'ouvrir plus tôt pour nos clients. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on pleure tous nos restaurants, on pleure tous nos cinémas, nos théâtres. Il ne faudrait pas pleurer nos commerces aussi, puisque c'est notre art de vivre à la française qui disparaîtrait. Donc il est nécessaire d'avoir une solidarité de nos clients, et je n'en doute pas. Nous respectons les gestes barrières complètement. Le sanitaire est bien respecté aussi dans toutes les boutiques. Donc on est sûr que nos clients vont venir nous voir.
Le président de l'association du Triangle d'Or à Bordeaux, au micro Europe 1 de Stéphane Place. Ce soir, c'est la douche froide pour les professionnels de la montagne. Les remontées mécaniques dans les stations de ski ne rouvriront pas le 1er février, dit le secrétaire d'État au tourisme, et une réouverture mi ou fin février paraît hautement improbable. À l'instant, Matignon indique que le Premier ministre va relancer à partir de demain les concertations avec les partenaires sociaux sur le dossier des retraites.
Voilà, un ancien Premier ministre, on en parle également, âgé de 91 ans, qui comparaît devant la justice. Deuxième journée donc du procès d'Edouard Balladur.
Jugé pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 95 et qui, Chloé Triomphe, a dénoncé aujourd'hui une affaire basée, selon lui, sur des rumeurs et des mensonges.
Oui, dans un propos liminaire d'une quinzaine de minutes, un discours soigneusement préparé dans un style tout ministériel, teinté de quelques piques bien personnels, Édouard Balladur a détaillé ce qui, selon lui, fait de cette affaire une affaire hors norme. Un dossier fondé sur des rumeurs, des approximations, des coïncidences et des suppositions que rien n'atteste, écrit-il. Il n'y a pas la moindre preuve, assène encore Édouard Balladur, la voix parfois chevrotante, mais le ton décidé, malgré sa voix tremblante qui tient ses feuilles. Avec de tels procédés, on condamne n'importe qui, n'importe quand et pour n'importe quelle peine, poursuit-il en direction des juges, leur expliquant doctement qu'il se trouve dans une situation aussi inédite que paradoxale pour quelqu'un qui, durant ses 50 ans d'activité, a souhaité œuvrer pour l'assainissement de la vie politique. Édouard Balladur rappelle que ses comptes de campagne avaient été validés dès 1995 par le Conseil constitutionnel et qu'il déplore que depuis l'ouverture des différentes enquêtes, sa culpabilité supposée soit quasi devenue une vérité historique. Fatigué, il a quitté les débats au bout d'un peu plus de 2 heures et devrait être interrogé la semaine prochaine.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1 qui suit donc ce procès. Puis des nouvelles du handball, hein, on en parlait tout à l'heure, France-Algérie, début du tour principal du mondial. Eh bien, les Bleus mènent pour l'instant 26 à 24, hein, c'est très serré.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle, on espère qu'ils vont gagner ce match, évidemment. Merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h. La pluie qui arrive aussi à partir de demain, ça c'est une moins bonne nouvelle, ma chère Anissa.
Avec la dépression Gaëtan, on a une perturbation qui va traverser tout le pays d'ouest en ouest. Alors vous prenez une ligne Bordeaux-Lyon, toutes les régions qui se situent au nord de cette ligne seront sous la pluie demain. Et en plus de ça, il y aura du vent fort pour tout le monde. Je vous rappelle que 5 départements, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange vent fort.
Comment vous dites, le Rhône. Merci Anissa.
Il y a un petit accent de là-bas. Hein.
Oui, j'adore l'accent qui chante, c'est joli aussi les accents. Merci Anissa, on se retrouve demain à partir de 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.